J'aimerais commencer le message ce matin par une petite histoire. Un dimanche après le culte, une famille autour de la table partageait ce qu'elle avait appris à l'église le matin. Arrivé le tour du jeune garçon, son père lui demande ce qu'il avait appris à l'école du dimanche. Et alors le garçon lui raconte l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Le garçon lui dit que ce fut une histoire complètement incroyable, papa. Il y avait d'un côté la mer Rouge, de l'autre côté l'armée de Pharaon et le peuple d'Israël pris au beau milieu. Aussitôt, Dieu les a secourus en envoyant des F-16 et des F-18 afin de bombarder l'armée de Pharaon. Juste après, il y a eu l'artillerie lourde, les chars d'assaut qui sont venus à la rescousse. Et c'est ainsi qu'ils ont vaincu l'armée de Pharaon. C'est alors que son père lui dit, attends, je crois que c'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. Aussitôt le garçon rétorque, mais papa, si je te dis vraiment ce qui s'est passé, tu ne croiras pas. La Bible dit que Dieu a tout simplement ouvert la mer Rouge en deux et que le peuple d'Israël, son peuple, a traversé, a pu passer de l'autre côté. Je vous raconte cette histoire parce que nous arrivons à la fin de notre parcours, bâtir sur du solide. Ce parcours qui est basé sur le sermon sur la montagne. Et le dernier thème qui nous est proposé ce mois-ci, c'est la foi déplace les montagnes. La foi déplace les montagnes. Après avoir étudié les béatitudes, l'enseignement sur le pardon, l'amour des ennemis, la paix au lieu de l'inquiétude, ce matin, nous sommes invités à réfléchir au sujet de la foi. La foi. Et comme dans l'histoire du peuple d'Israël qui traverse la mer Rouge à sec, grâce à un miracle bien sûr accompli par Dieu pour sauver son peuple, nous sommes tous sujets à des situations où notre foi est mise à l'épreuve. Notre foi est souvent mise à l'épreuve. Il y a d'ailleurs des choses que nous ne pouvons accepter que par la foi. Avant d'aller plus loin, je vous propose de lire trois passages dans le Nouveau Testament. D'abord, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7, où nous lisons ceci, Matthieu 7, 7. « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Le deuxième passage dans Marc chapitre 11, à partir du verset 22, nous lisons ceci. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le dernier passage, dernier verset dans Jean chapitre 15, c'est le verset 7 qui dit « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Je pense, frères et sœurs, que ces 6 mois passés à étudier le sermon sur la montagne, donc cet enseignement de Jésus très précieux, je pense que maintenant cette période nous permet d'avoir un aperçu un peu plus complet de ce que le Seigneur demande à chacun d'entre nous, à chacun de ses disciples. Nous pouvons le résumer en 2 phrases. Le Seigneur demande ce que nous construisions notre vie ici-bas à la lumière de son enseignement, à la lumière de sa parole qui est le roc sur lequel nous devons bâtir nos vies, parce que si nous ne le faisons pas, nous bâtissons sur du sable. C'est comme ça qu'il termine, n'est-ce pas, cet enseignement du sermon sur la montagne. Et il attend que nous vivions finalement dans ce monde ici-bas d'une manière différente des autres, manière différente des autres. Or, je dirais que cela est impossible sans la foi. C'est impossible sans la foi. D'ailleurs, les disciples l'ont compris et ils priaient, « Seigneur, augmente notre foi, augmente notre foi. » Et si nous voulons vivre dans ce monde de manière authentiquement chrétienne, nous n'avons pas d'autre choix que demander la même chose au Seigneur, « Augmente notre foi. » Car la vie chrétienne, on le sait bien, est un chantier qui se bâtit par la foi en Jésus-Christ et dans la foi en Jésus-Christ. Or, dans les passages que nous venons de lire, il y a un lien étroit entre la prière et la foi. Dans le premier passage, Jésus encourage ses disciples à oser demander. Et c'est bien d'avoir cette invitation parce que parfois nous n'osons pas demander. Il nous encourage à oser demander, à oser présenter nos requêtes au Seigneur. À présenter nos requêtes à ce Père céleste qui nous aime et qui a prévu de bonnes choses pour nous. Ce Père céleste qui est toujours disponible pour nous écouter, pour répondre à nos prières et nous donner de bonnes choses. Dans le deuxième, il affirme que la foi en Dieu, c'est comme ça qu'il commence ce passage, n'est-ce pas ? La foi en Dieu déplace les montagnes. La foi en Dieu déplace les montagnes. Alors, je me suis posé la question, après avoir lu ces passages, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le Seigneur, d'abord, est-ce que le Seigneur répond vraiment à nos prières ? Et est-ce que la foi déplace les montagnes ? Je pense qu'il faut d'abord voir ce que la parole de Dieu dit sur la foi. Qu'est-ce que la foi ? On peut dire que la foi est l'un des concepts les plus importants dans la Bible. Quand on lit la parole de Dieu, on constate immédiatement que la foi est au cœur du message biblique, au cœur du message de l'Évangile. La fameuse affirmation d'Habacuc, « Le juste vivra par la foi », nous la retrouvons dans d'autres passages, même du Nouveau Testament, n'est-ce pas ? Et nous trouvons de nombreux passages dans la Bible qui nous encouragent à faire confiance au Seigneur. Par exemple, je peux citer deux ou trois textes, le psaume 37 qui est connu de beaucoup d'entre nous, à partir du verset 3 qui dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ou alors ce verset de Proverbes chapitre 3 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ou alors encore le prophète Jérémie au chapitre 17 qui dit, pour ne citer que ces passages, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, etc. etc. » Il y a beaucoup d'autres passages dans la Bible, je dirais des centaines, qui nous encourage à mettre notre confiance, notre foi dans le Seigneur. En fait, ils nous disent, ces passages nous disent quelle est l'attitude juste qui est attendue de la part du croyant. La foi, la confiance. Déjà à propos d'Abraham, appelé le père de la foi, n'est-ce pas ? Il nous est dit dans Genèse 15 qu'Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le considéra comme juste. L'Éternel le considérera comme juste. Si l'on tient compte de ce beau chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, tous ces personnages, beaucoup de ces personnages importants de l'Ancien Testament, Noé, Abraham, Moïse, Josué, etc., etc., ils ont vécu dans la foi, ils ont vécu par la foi et dans la foi. C'est ce que nous dit ce chapitre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ils ont fait confiance à Dieu, ils ont fait confiance aux promesses divines. Ces hommes et ces femmes considéraient que le Seigneur est le seul digne de confiance, digne de foi. Ils s'appuyaient sur Dieu, sur ses promesses il faisait confiance au Seigneur. Et on voit que cela influençait toute leur vie, influençait leurs attitudes, leurs actions de manière radicale. Pensons à Abraham, lorsqu'il a écouté la voix du Seigneur, en obéissance à ce que Dieu lui a demandé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté son pays pour aller là où Dieu l'indiquait, n'est-ce pas? Pensons aussi à Noé qui a construit l'arche, apparemment pendant 120 ans, n'est-ce pas? En obéissance à l'ordre que Dieu lui avait donné, alors que tout le monde autour de lui s'en moquait, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait citer ce matin qui montrent que ces gens-là ont mis vraiment leur confiance dans le Seigneur. Dans le Nouveau Testament et notamment dans les Évangiles, même si ceux-ci s'intéressent à la foi de manière générale, celle-ci est souvent associée à la guérison. À la femme qui souffrait d'hémorragie depuis plus d'une douzaine d'années et qui est venue par derrière toucher, n'est-ce pas, le vêtement de Jésus, parce qu'elle savait que c'était la seule possibilité d'être guérie, sans doute qu'elle avait vu beaucoup de monde, beaucoup de médecins de l'époque, mais elle souffrait toujours. Jésus l'a effectivement guérie, et qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Ta foi t'a guérie. Ta foi t'a guérie. Lorsque l'aveugle Bartimée a fait appel à Jésus pour être guéri, et que les disciples disaient, mais tais-toi, tais-toi, cet homme s'est mis à crier encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus l'a guéri en lui disant, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Lorsque les quatre hommes apportèrent leur ami paralytique à Jésus pour que celui-ci le guérisse, il y avait une foule terrible dans la maison et à l'extérieur, ils sont montés par le toit, ils ont fait un trou pour déposer Jésus au pied, pour déposer leur ami au pied de Jésus, n'est-ce pas? Et Marc nous dit que Jésus, voyant leur foi, Jésus a guéri le paralytique. En voyant leur foi, Jésus a guéri le paralytique. Même l'homme qui a crié à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité », même cet homme-là a vu Jésus guérir son fils possédé d'un mauvais esprit. C'est vrai, Jésus invitait les gens à la foi en lui. Jésus invitait les gens à croire. On voit aussi chez les apôtres que la foi est l'attitude chrétienne type. Pour eux, rien ne peut se substituer à la foi, rien. Il suffit de lire les diverses lettres du Nouveau Testament pour constater que la foi est nécessaire au salut, la foi est nécessaire au salut, mais elle est nécessaire aussi à la vie chrétienne de chaque jour. Je cite ce verset de l'apôtre Paul, il dit, « Car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi est donc toujours mise en avant dans la Bible. Elle a été toujours, elle est encore, la marque caractéristique du peuple de Dieu, la marque caractéristique du chrétien. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans toute la Bible, l'attitude correcte vis-à-vis de Dieu, c'est cette attitude de foi, de confiance au Seigneur. La marche par la foi est la marche par excellence du croyant. C'est elle qui, comme le dit l'apôtre Jean, nous permet de triompher du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, nous dit-il. Mais encore une fois, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi réellement? Il faut d'abord dire que la foi est l'élément le plus répandu dans le monde. Peut-être que nous ne prenons pas conscience, nous n'avons pas conscience de cela, mais c'est vrai, la foi est l'élément le plus répandu dans le monde. Elle est inhérente à notre nature humaine, car la vie sans la foi serait complètement impossible. La foi, nous l'exerçons à chaque instant de notre vie. L'autre jour, j'ai pris l'avion pour aller en Hongrie, participer au congrès de la mission baptiste européenne. Malgré le fameux nuage, n'est-ce pas, d'Islande, vous savez que les aéroports un peu partout ont été arrêtés. Mais j'ai pris l'avion d'abord parce que ce vol n'avait pas été annulé Et j'ai tout simplement fait confiance à ceux qui ont décidé que l'avion pouvait s'envoler et aller jusqu'à Budapest. Et donc, je me suis assis, comme tous les autres, à l'intérieur de l'avion, et j'ai tout simplement fait confiance. Quand vous allez au sport d'hiver et que vous prenez le télésiège, vous faites confiance que le câble ne va pas se casser, ne va pas se rompre, n'est-ce pas? Et donc, vous prenez place et vous pensez, vous croyez que vous allez vraiment arriver là où vous avez décidé d'y aller. C'est ça la foi. Vous avez tellement de foi que quand vous êtes arrivé ce matin, vous êtes assis sans examiner les chaises, n'est-ce pas? Bon, s'il y avait quelqu'un qui tombait avant vous, peut-être là vous seriez obligé de jeter un coup d'œil, mais vous êtes assis sans regarder si la chaise était assez costaud pour tenir avec votre poids, même si vous n'êtes pas très lourd. Lorsque vous allez à la banque déposer un chèque ou votre argent, vous faites confiance que le chèque et votre argent va être débité sur votre compte. Vous donnez votre argent et votre chèque à un inconnu et vous faites confiance. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Donc, on pouvait donner beaucoup d'autres exemples qui montrent que la foi est finalement cet élément qui est présent dans notre vie de chaque jour. On ne sortirait pas de la maison sans avoir un minimum de foi, de confiance. Or, on voit dans la Bible que Dieu nous demande d'avoir vis-à-vis de lui, avec lui, finalement ce que nous faisons chaque jour vis-à-vis de tout et de tous. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance, de croire en lui. Et non seulement pour notre salut, pour notre vie éternelle, mais aussi pour tous les aspects de notre vie. Vous vous rappelez de l'enseignement sur l'inquiétude, n'est-ce pas? Du sermon sur la montagne. Ce qu'il nous a dit, de ne pas nous inquiéter et de regarder la nature. Il nourrit les oiseaux, il habille les lits des champs. Alors pourquoi vivre dans l'inquiétude? Il nous demande de lui faire confiance, car il est le seul entièrement digne de confiance. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, nous pouvons lui faire confiance, car comme dit la Bible, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons pas mal de mots qui expriment la notion de foi. Se confier à, s'appuyer sur, s'attendre à, attendre avec espérance. Le psaume 37 que j'ai cité tout à l'heure dit littéralement « Roule-toi sur l'Éternel ». Roule-toi sur l'Éternel. Ça fait penser à un petit enfant, n'est-ce pas, qui se couche sur le ventre de son père et qui roule sur son père en toute confiance, en toute confiance. Il fait vraiment confiance à son père et il est capable de se rouler sur son père. Alors quelle foi, quelle confiance, quel esprit de dépendance de penser qu'on peut se rouler sur l'Éternel, de faire confiance à l'Éternel. Il y a d'autres mots qui expriment l'idée de se réfugier, surtout quand les textes parlent de Dieu comme étant un roc et un bouclier. Se réfugier en l'Éternel, c'est ça la foi, la confiance. Dans le Nouveau Testament, c'est un petit mot grec, pistis, qui est traduit par foi, fidélité, et le verbe pisteo, qui est traduit souvent par croire, croire en Jésus, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est ce verbe qui est employé pour décrire donc cette attitude fondamentale de celui qui place toute sa confiance en Jésus-Christ, comptant sur lui seul pour son salut et pour tout le reste. Si Dieu est la source de notre vie, s'il en est le donateur et le soutien, comment pouvons-nous ne pas faire confiance au Seigneur? Comment pouvons-nous ne pas faire confiance à celui qui nous a donné la vie, à celui qui nous a mis dans ce monde? La foi est donc l'attitude par laquelle le croyant place toute sa confiance au Seigneur en comptant sur lui pour tous les aspects de sa vie ici-bas et bien sûr pour son salut. Ce n'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est croire en Dieu, lui faire confiance pour tous les aspects de sa vie. remettre sa vie entre les mains de Dieu, remettre sa vie sans réserve à la miséricorde divine, s'emparer des promesses divines, comme on l'a entendu encore ce matin, n'est-ce pas, se réfugier en lui. Oui, c'est s'appuyer en Dieu comme étant l'ami qui ne fera jamais défaut, car il est notre plus grand soutien. Or, dans le deuxième passage que nous avons lu, Jésus parle des effets extraordinaires qu'aurait la foi. La foi déplace les montagnes, nous dit Jésus. Jésus nous invite à avoir cette foi qui commande à la montagne de se jeter dans la mer. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cette foi qui permet de déplacer les montagnes ? Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une montagne se jeter dans la mer. Est-ce que quelqu'un ici l'a déjà vu ? On ne l'a pas encore vu. Ceci dit, il paraît que cela est arrivé. J'ai lu une petite histoire l'autre jour. Une église qui avait décidé de construire sur un terrain donné par un membre de l'église, et nous sommes preneurs en ce moment, n'est-ce pas ? S'il y a quelqu'un parmi nous qui veut nous donner un terrain pour construire, je crois que nous sommes preneurs, hein, André. Donc cette église avait décidé de construire. Il se trouve que la salle qu'ils ont construite était trop grande pour le petit parking qu'ils avaient. Et donc l'inspection des bâtiments ne leur a pas donné l'autorisation d'ouvrir parce que le parking n'allait pas avec la capacité d'accueil de cette salle de culte. La seule partie du terrain inutilisée, c'était une colline qui se trouvait derrière l'église et qui appartenait à l'église. Le dimanche, avant l'ouverture de leur nouveau lieu de culte, le pasteur a invité tous ceux qui croyaient que Dieu était capable de déplacer des montagnes de venir le soir à la réunion de prière. Et des 300 membres de l'église, seulement 24 sont venus à cette réunion. C'est à peu près le même pourcentage chez nous, n'est-ce pas ? Quand il y a une réunion de prière, hélas, on ne voit pas beaucoup de monde. Après avoir prié pendant plus de 2 heures, le pasteur a déclaré qu'ils ne savaient pas de quelle manière, mais il avait la conviction que Dieu allait effectivement déplacer cette colline, cette montagne qui se trouvait derrière l'église, et aplanir le terrain dans la semaine pour que le dimanche suivant l'église puisse être inaugurée. Et vous savez quoi ? Le jour suivant, après cette réunion de prière, il y a un homme qui se présente chez le pasteur, il frappe à la porte. Il s'est avéré que c'était un entrepreneur du bâtiment d'une région voisine. Ils étaient en train de construire un grand centre commercial et ils avaient besoin de rembler pour niveler donc l'emplacement de la construction. Et c'était la seule colline qui existait, c'était celle qui se trouvait derrière la nouvelle construction. Et il a demandé au pasteur si son entreprise pouvait acheter cette colline qui se trouvait derrière, donc pour utiliser cette terre là où il avait besoin. Et il a ajouté que s'il pouvait avoir la terre immédiatement, en retour, il payait le parking et le marquage au sol. La réponse était complète, n'est-ce pas, la réponse du Seigneur. Et le pasteur ne s'est fait pas prier, n'est-ce pas, il a accepté tout de suite cette offre. Et le nouveau local a pu ouvrir le dimanche suivant parce que Dieu avait répondu à la prière de ces 24 personnes qui ont prié pendant plusieurs heures pour que Dieu déplace cette colline. La personne qui a raconté cette histoire disait que ce dimanche-là, le dimanche de l'inauguration du nouveau bâtiment, il y avait bien plus de gens, il y a une foi qui déplace les montagnes que le dimanche avant, n'est-ce pas ? Cette foi qui déplace les montagnes, c'est la foi qui est capable de rendre possible ce qui nous semble impossible. Autrement dit, c'est cette foi qui permet au Seigneur de faire des miracles, utilisons le mot, qui permet au Seigneur de faire des miracles. C'est ce que laisse entendre Jésus quand les disciples sont impressionnés parce qu'il a desséché un figuier. Jésus dit,
leur dit que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. La foi commence d'ailleurs par cette reconnaissance d'abord de notre impuissance à nous, n'est-ce pas, de notre impuissance lorsque nous prenons conscience que sans Dieu, sans la présence divine dans nos vies, nous ne pouvons rien faire, en tout cas rien faire de valable dans ce monde. Et qu'avec lui, nous pouvons tout. L'apôtre Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie. Avec lui, nous pouvons tout. Notons au passage que Jésus ne dit pas que la foi supprime les montagnes, mais qu'il les déplace. Et c'est pour cela que nous aussi, nous les chrétiens, nous passons parfois par des moments difficiles, de souffrance, de chômage, de maladie, etc., etc. Le Seigneur ne supprime pas ces choses-là, mais il peut les déplacer. Toutes ces montagnes qui se mettent au travers de nos routes, de nos vies, de la vie de nos frères, n'est-ce pas ? Dieu est capable de les déplacer en réponse à notre prière de foi. Alors c'est vrai que les miracles, c'est quelque chose qui impressionne toujours. Ceci dit, et même si Dieu, en réponse à la foi de ses enfants, fait des miracles, peut-être pas de manière spectaculaire comme certains le prétendent aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur fait des miracles. Le Seigneur l'a toujours fait. Et nous, quand on regarde les textes bibliques, on voit que beaucoup ont vu des miracles, mais ils ne se sont pas convertis pour autant. Ils ne se sont pas donnés au Seigneur, malgré le fait d'avoir vu des miracles. Il y a un passage dans le sermon sur la montagne que nous avons étudié, n'est-ce pas ? Passage qui parle du jugement dernier et qui dit, en fait, que l'essentiel n'est pas dans le miracle, mais dans la fidélité au Seigneur. Le miracle n'est qu'un moyen. L'essentiel, c'est la fidélité au Seigneur. C'est lorsque des gens disent à Jésus, dans le chapitre 7, à la fin du chapitre 7, « Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles. » Et qu'est-ce que Jésus leur dit ? « Allez-vous-en, je ne vous connais pas. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » La foi chrétienne n'est pas... Ce n'est pas simplement croire au miracle. La foi chrétienne, c'est de continuer à faire confiance au Seigneur, à garder sa confiance dans le Seigneur, garder la foi, à rester fidèle au Seigneur, même lorsqu'il n'y a pas de miracle. Parce qu'il faut le dire, le Seigneur ne fait pas toujours de miracle. Ça, il faut que nous le sachions. Jésus désire qu'on s'attache à l'auteur des miracles et non pas au miracle. C'est le Seigneur qui compte, c'est lui qui peut faire des miracles. Qu'on s'attache au Seigneur, même quand il n'y a pas de miracle. Oui, la foi déplace les montagnes, nous dit Jésus. Mercredi dernier, je suis allé participer à la soirée de portes ouvertes à l'église de la Moisson. Il y avait une affiche au fond de la salle. Et Eric Baumann nous a fait, il a passé un film avec le témoignage de quelques familles dans un pays en Asie, je ne m'appelle plus le nom du pays, proche des Philippines. Le témoignage de quelques familles chrétiennes dont leurs 4 filles adolescentes ont été sauvagement assassinées par des musulmans intégristes. Comme d'habitude, les 4 allaient chaque matin à l'école tous ensemble. Et sur le chemin de l'école, ces 4 filles adolescentes de 14-15 ans ont été attaquées et ont été sauvagement assassinées à la machette. Et alors on peut imaginer la souffrance, d'ailleurs le témoignage montre bien la souffrance de ces familles. Elles sont dans la peine, dans la souffrance terrible, dans les pleurs. Et malgré cela, il y a une fille qui est rescapée et qui montre... Elle a plein de cicatrices sur son corps. Et d'ailleurs, on voit une cicatrice très, 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 très grande au niveau du cou et du visage. Elle a échappé à la mort et donc c'est elle qui a raconté ce qui s'est passé. Pourtant, c'était impressionnant de voir ces familles dire, dans la souffrance, nous pardonnons aux assassins de nos filles. nous pardonnons aux assassins de nos filles. Et je me suis interrogé à ce moment-là, est-ce que moi je serais capable de pardonner si c'était ma fille qui avait été assassinée de la sorte? Alors je me suis dit, oui, seul l'évangile peut déplacer cette montagne terrible, n'est-ce pas, de la haine et de la vengeance. Seul l'évangile peut le faire, rien d'autre ne peut le faire. Et à celui qui était à côté de moi, je lui dis, nos petites querelles dans nos églises, n'est-ce pas, et ces choses parfois qu'on traîne pendant des années et dont on a du mal à accorder notre pardon, c'est vraiment ridicule. Quand on voit un témoignage comme celui-là, c'est ridicule de ne pas pardonner telle ou telle petite phrase de mon frère ou de ma sœur prononcée à telle occasion. Ça, je me suis dit, c'est vraiment ridicule. Si ces familles-là peuvent pardonner aux assassins de leurs filles, qui sommes-nous pour ne pas pardonner à ceux qui nous ont dit un mot déplacé, n'est-ce pas? La foi qui déplace les montagnes est une foi en Dieu, nous dit Jésus. Dans le passage, Jésus commence bien par dire « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. Donc il ne s'agit pas d'avoir foi en nous-mêmes ou de croire à la prière, comme certains le disent, n'est-ce pas? Moi, je ne crois pas à la prière. Je crois au Dieu qui écoute nos prières, au Dieu qui répond à nos prières. Et je pense que c'est important de le dire parce que l'objet de notre foi, c'est Dieu. C'est Dieu l'objet de notre foi. C'est important de le dire car certains pensent que la prière, c'est la prière qui compte, c'est quelque chose de magique. Il faut prier d'une manière parfaite, il faut répéter ces phrases des dizaines et des centaines de fois pour que Dieu nous entende. Croyons au Dieu qui entend nos prières et laissons ces prières magiques de côté parce qu'elles ne servent à rien. Je dirais, si vous me permettez l'expression, que c'est de la priérolâtrie. C'est une manière d'idolâtrer la prière. C'est Dieu qui entend nos prières. Croyons à Dieu. Ayez foi en Dieu, nous dit Jésus. Il nous arrive parfois de confondre foi et conviction personnelle, désir personnel. Ces désirs et ces convictions qui sont souvent le fruit de nos émotions, de nos interprétations. Or, la foi dont parle Jésus ici, cette foi qui déplace les montagnes, est un vif désir de voir se réaliser la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu. Le troisième passage que nous avons lu nous montre bien qu'il y a des conditions à la réponse de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Voilà la condition. La condition, c'est d'être avec le Seigneur, en accord avec sa volonté, avec sa parole, de demeurer dans le Seigneur. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Demeurer dans son enseignement, dans sa volonté. La foi qui déplace les montagnes est nécessairement centrée sur la volonté de Dieu, sur son plan, sur son projet. La foi qui déplace les montagnes, c'est ça, une foi qui essaye de comprendre quelle est la volonté de Dieu, non seulement pour ma vie, mais pour tout le reste. Elle part du principe que c'est la volonté de Dieu, et non pas la mienne, mes désirs, mes convictions, mes interprétations, fruit de mes émotions, mais la volonté du Seigneur qui doit s'accomplir sur la terre comme au ciel. Priez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, permet de ne pas confondre la volonté de Dieu avec nos convictions personnelles. Je terminerai avec un dernier verset, un petit verset que je n'ai pas lu au début. Il se trouve dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Il dit « Quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je crois que c'est important aussi de garder cette parole à l'esprit. Pourquoi? Parce que nous pouvons être tentés, n'est-ce pas, d'utiliser notre foi pour regarder les autres d'en haut, n'est-ce pas? Et de dire, puisque tu souffres, tu n'as pas assez de foi, comme on a souvent entendu. Si tu souffres, tu n'as pas assez de foi. C'est qu'il y a un problème quelconque dans ta vie. Or, nous avons dans la Bible des exemples d'hommes intègres, n'est-ce pas, fidèles, qui sont passés par la souffrance et des moments terribles. Dieu a permis qu'ils passent par des souffrances. On pourrait citer Job, n'est-ce pas, parce qu'il a souffert malgré son intégrité. On pourrait penser à l'apôtre Paul qui a demandé à Dieu de lui enlever les chardes dans la chair. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Non, je n'enlèverai pas, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Alors, pour terminer, je dirais, prions le Seigneur d'augmenter notre foi et notre amour. Restons fidèles et attachés à sa parole et à son enseignement. C'est ça le roc sur lequel nous devons bâtir notre vie. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc ne ratons aucun moment pour lire, pour étudier, pour méditer, seul ou ensemble, la parole du Seigneur, parce que c'est elle qui nourrit notre foi. On pourrait comparer la foi à un muscle, n'est-ce pas, qui doit se développer, qui doit s'entretenir pour pouvoir exercer ses fonctions. Nous avons reçu le muscle de la foi au moment de notre conversion et la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne, qui met en nous cette foi première, n'est-ce pas, pour la conversion, mais après ce muscle doit être entretenu, doit se développer. Alors écoutons, lisons, étudions la parole de Dieu afin de muscler notre foi et d'arriver à cette foi qui déplace les montagnes. Parfois, pour développer ce muscle de la foi, nous avons de prier comme cet homme dont j'ai cité tout à l'heure. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, nous dit Jésus, car la foi déplace les montagnes.